Je vous souhaite un beau lundi matin à Boulevard 102.1. Vous êtes dans l'open mic. On starte ça de façon chaotique. Et je vous avertis parce que je suis la première d'une longue lignée aujourd'hui. Je pense que c'est la première fois que ça arrive à Boulevard où il nous manque trois animateurs dans la grille. Ce qui est pas pratique de ce qu'on me dit quand on tente de faire du talk, de faire des bons shows, mais on est chanceux parce qu'on est une petite équipe assez proactive. Donc, ce matin, ben, on commence avec l'open mic. On est ensemble jusqu'à 10h30. Je m'appelle Audrey Pinchot. En passant, bienvenue. Je ne serai pas seule pour cette aventure. Vous comprendrez qu'Yann n'est pas là ce matin. Il a attrapé, probablement par ma faute, la grippe, la COVID. On ne sait pas trop ce que c'est. Ça dure beaucoup trop longtemps. On en perd la voix. On mouche. On a mal à la gorge. Il a attrapé ça en fin de semaine. Il n'y a plus de voix, il ne peut pas jaser. Et Denis a attrapé la même maudine d'affaire. Fait que je vois que je suis ce qu'il y a de commun entre ces deux animateurs-là.
Je suis le patient zéro.
Je suis le patient zéro. La belle voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Catherine Bachand.
Bonjour.
Et dans les matins chaotiques comme ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'énergisant quand même. Je trouve
qu'il y a quelque chose.
Ah! Le rush, le fait de devoir se débrouiller, d'être dans des pantoufles qui sont pas les nôtres, je trouve que ça nous replace un peu. Là. Tu sais, quand t'es trop confortable, on dirait que ça te ramène un peu. Fait que c'est un plaisir de partager le micro avec toi ce matin, Cat Bachand.
Je suis vraiment très, très heureuse de pouvoir venir t'épauler dans cette grande tâche. Puis pour... Tu sais, les auditeurs, je ne sais pas jusqu'à quel point ils le savent, mais on n'est pas des grosses équipes quand on se compare à d'autres stations de radio.
Et non, hein.
Alors, quand il y en a un qui n'est pas là, c'est beaucoup de gens qui sont affectés. L'imagine trois.
C'est vraiment la première fois, du moins depuis moi que je suis là, la première fois qu'il en manque autant. Tiens, on a Denis puis Yannick qui est malade. Pascal serait normalement venu porter secours dans l'open mic. Elle aurait porté secours au midi aussi, mais elle est prise au Saguenay. Puis elle aura l'occasion de vous raconter le pourquoi du pourquoi. Ce qui fait en sorte que ce midi, vous allez entendre Jeff et Max qui vont prendre finalement d'assaut l'heure du dîner jusqu'à 14h pour venir donner un coup de main. Cet après-midi, c'est Nathan Meilleur qui va venir porter secours au retour avec Véro et moi. Fait qu'on vole du monde à week-end. C'est ça qu'on fait quand les équipes sont petites. On est chanceux, on s'entend bien. Il y a ça qui est positif.
Une mauvaise de chance.
88-971-1021, c'est le texto. La pression redescend tranquillement, pas vite. Là. On se connaît assez, je pense, les auditeurs, pour que je puisse vous dire que j'avais le stress dans le tapis ce matin. Là. Quand ça roche, ça roche. Donc, vous nous rejoignez par texto. 88-971-1021, il y a le téléphone aussi, vous vous gênez jamais. Le 780-1021, évidemment, il y a la plateforme Twitch, toujours une belle communauté qui est présente. C'est le twitch.tv, BLVD, barre en dessous, FM. J'ai envie de commencer peut-être par vous dire qu'il fait beau dehors. D'habitude, on commence avec ça. Quand on commence une émission, il fait 11 présentement. Alternance soleil-nuage. Pour ce qui est de la journée, on va atteindre un maximum de 18. Ce soir et cette nuit, c'est un 4 degrés quelques nuages. Demain, ce sera beau. 17 degrés alternance soleil-nuage également. C'est mercredi, notre belle journée avec un 25 ensoleillé de bord en bord. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, à date, c'est de la pluie. Moi, dans ce temps-là, je sais pas toi, Kat, mais je vis dans le déni. Je repousse.
Ben, surtout que c'est un long week-end.
C'est ça.
Laisse-moi te parler de mon déni.
J'attends dans ce temps-là un peu s'il y a quoi que ce soit sur les routes. Vous vous gênez pas non plus par le 88-971-1021.
Si je peux me permettre, vous avez sans doute, chers auditeurs de Boulevard, beaucoup entendu parler de la compétition de danse Hit the Floor.
Oui.
Qui a toujours lieu le long week-end de mai. Avant, c'était du côté de Lévis. Pour la première fois cette année, c'est du côté de Québec, au centre de foire. Puis, quand il pleut, c'est déjà un peu moins pire. Parce que le week-end de mai, qui est long, c'est un long week-end, t'as envie de faire autre chose. Là, si tu te dis au moins il pleut, ben ça va être extraordinaire pour pouvoir aller encourager les danseurs.
T'es fait,
oui, oui, c'est un abonnement.
T'as des talentueuses, toi, ça n'a pas de bon sens.
Je vais te dire oui, très talentueuse. Puis en plus, on va vivre une première. Ma grande fait son solo pour la première fois de sa vie. Ça fait 17 ans que Juliane danse. Et c'est la première année qu'elle ose un solo. Et puis, quand elle l'a fait la première fois à Hit the Floor à Saint-Hyacinthe, elle a terminé première. Mais il y a quelque chose dans Hit the Floor Québec. C'est la plus grosse compétition. Puis d'apprendre la scène seule, ça va être un grand moment. Ça commence jeudi, cette compétition-là. Fait que je vais être abonnée pas mal. Fait que s'il pleut, ça va peut-être un peu moins me faire mal au cœur.
Tu vas être une maman fière. J'ai jamais...
Ouais, je comprends donc.
Tu sais que moi, ça a toujours été un rêve, hein? de potentiellement pouvoir danser. J'ai pas de rythme, j'ai pas de coordination, j'ai pas... Moi, je suis plus musique.
Je chante,
oui. Écoute, la danse, j'aurais rêvé de pouvoir faire ça. Ou même juste de jouer un instrument en même temps, tu sais, que de chanter. J'ai pas de coordination, ça a jamais fait partie de moi, fait que ça m'impressionne.
Ben là, je te vois derrière la contrôle, derrière la console, en train de contrôler le Twitch, prendre les textos, faire la mise en onde, répondre aux appels, coordonner l'émission. Je te dis que t'as beaucoup de coordination. Si André Pinchot ne te sous-estime pas.
Je te ferai pas à croire que c'est naturel. Puis ce soir, je vais bien dormir parce que j'aurai plus d'énergie. Je suis contente que ce soit avec toi qu'on commence l'open mic, Kat, parce que c'est un sujet, j'ai l'impression, sur lequel tu vas avoir beaucoup de choses à dire. Puis je vous invite au 88-971-1021 par texto aussi à pas hésiter, en fait, à commenter, à donner votre opinion, parce que je sens qu'il y a vraiment deux camps par rapport à ce qui a pu se passer la semaine passée. Quand je dis ce qui s'est passé la semaine passée, je parle de vendredi, la fameuse manifestation. Il n'y a pas eu tant de gens que ça, finalement, il pleuvait. J'ai l'impression que ça a peut-être un peu aidé. Mais les manifestations qui ont été engendrées suite aux interdictions de cellulaires dans les écoles qui s'en viennent. Bon, vous avez suivi l'histoire la semaine passée. Tout le monde a une opinion là-dessus. Personnellement, j'ai rien contre le fait qu'on interdise les cellulaires à l'école en partant. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Même que je me dis des fois que j'aurais peut-être aimé ne pas avoir mon téléphone cellulaire quand moi, j'étais au secondaire. On met sous prétexte l'intimidation aussi dans tout ça. Fait que je trouve le débat intéressant. Et avec tout ça est venue la vidéo d'un jeune qui a fait énormément jaser la semaine passée. J'ai encore l'audio, puis je tiens à vous le faire entendre si jamais vous... viviez peut-être sous une roche, là, puis c'est sans lance, mais ça s'est
TikTok,
beaucoup promené,
ouais.
Exactement. Ouais. Ça s'est promené dans les différents médias. Puis cette vidéo-là fait jaser pour plusieurs raisons. Un, l'appel à la manifestation, mais je pense qu'on a un examen de conscience à faire ce matin. Comme adulte, mais j'ai envie de dire comme média. Puis j'avais un peu cette pensée-là la semaine passée, puis j'étais pas sûre à quel point je l'assumais jusqu'à ce que je tombe en fin de semaine sur une vidéo et un texte que Farnell Morissette, que vous connaissez super bien, vulgarisateur d'actualité, a fait sur ses plateformes de réseaux sociaux. Tu sais, des fois, t'as juste besoin comme du petit kick pour venir te dire hey, « je suis pas folle, je suis pas toute seule, visiblement. » Oui, exactement. Parce que j'étais quand même entourée de gens qui critiquaient beaucoup ce jeune-là, qui critiquaient le fait que les jeunes voulaient se revendiquer contre ça. Puis voyons, il me semble qu'on a d'autres choses plus importantes que ça. S'ils veulent chialer, il me semble qu'il y a d'autres affaires plus importantes sur lesquelles mettre notre attention. Je vous fais entendre l'audio. On va partir de là. Je vais entendre ta réaction, Kat. Je vais entendre ta façon de penser sur le sujet. Et on va rejoindre Farnell parce qu'au lieu de juste vous expliquer ses publications d'en fin de semaine, je veux qu'il nous exprime son opinion là-dessus. Et de là, j'ai envie de vous lire aussi au 88-971-1021. Je pense que c'est une réflexion d'adultes qu'on a entamé par rapport à l'éducation qu'on fait de nos jeunes sur le futur qu'ils ont dans notre société.
Les jeunes, on fait la grève! À partir de l'année prochaine, le gouvernement du Québec va nous obliger à appeler nos professeurs, monsieur, madame, et rendre les téléphones illégaux à l'école. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça débile. Monsieur, madame, gouvernement, on a des problèmes beaucoup plus graves que le téléphone à l'école. Puis par « on », je veux dire le Québec. Alors, élèves, le 9 mai 2025, on fait la grève. Montrons à monsieur le gouvernement qu'on est sérieux à propos de notre pays.
Qu'on est sérieux à propos de notre pays, qui dit bon. Y a des gens qui rapidement se sont attaqués aux propos en soi. On rit des propos en soi, du français, de la façon de s'exprimer, Puis la conversation que j'avais avec des collègues, des amis, de l'entourage dans les derniers jours, moi, c'était de me dire, mettons qu'on met le débat des cellulaires de côté, là. Je trouve qu'il y a un signe d'intelligence dans un jeune qui ose prendre position. Que ce soit fait de la bonne façon, de la mauvaise façon, le jeune a quoi, à peu près 15 ans, il a le temps de se développer puis de développer des arguments dans le sens du monde. Moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose de beau là-dedans. Puis j'avais beaucoup de gens autour de moi qui n'étaient pas nécessairement d'accord avec ça. Puis encore une fois, 971-1021. Kat, t'as des jeunes femmes qui sont dans ces âges-là, début adulte. T'as ça en inventaire.
C'est ça, oui.
Je suis curieuse de voir ce que toi t'en penses comme parent, mais aussi comme fille de médias.
Je vais commencer peut-être en parlant de mon rôle de maman, parce que moi, j'en ai une de 19 puis une de 16. Fait qu'elle, elle est directement concernée, celle de 16, justement concernée par cette interdiction-là de cellulaire. Mm-hmm. Mais je dois dire qu'elle est déjà dans une école qui le bannit. Alors, la réglementation, ils n'ont pas attendu, eux autres, d'avoir quelque chose qui venait du ministère de l'Éducation. Ils ont déjà passé en mode proactif, puis eux autres, ils ont décidé de l'interdire dans l'école, dans les cours, à la récré, sur l'heure du dîner et tout ça. Fait que c'était déjà interdit. Puis moi, en tant que parent, j'ai pas été déboussolée de ne pas pouvoir texter à mon enfant pendant la journée.
Oh, ouais!
Fait que, tu sais, on a été capable de s'organiser. Puis le monsieur, madame, c'était déjà quelque chose qui était là. Fait que, tu sais, là-dessus, moi, elles n'ont pas été très, très chamboulées. Puis quand l'interdiction est arrivée puis qu'elle a été mise en application de façon abrupte, bien, c'est sûr qu'elle s'est fait pogner au début. Je dis, bien, mais tu savais.
Oui.
Tu savais que ça s'en venait, tu savais que ça allait
c'était
être
c'était prévisible.
Là. Fait que là, bien, rendu là, c'est arrange-toi. Mm-hmm. Fait que moi, j'avais pas aucune difficulté avec cette contrainte-là qui leur était imposée. Ceci étant dit, on dit tellement de nos jeunes aujourd'hui qui sont flambous. Qui sont paresseux,
oui.
Qui n'ont pas de passion, qui n'ont pas d'ambition, qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent rien faire. Puis là, tu as un jeune qui est passionné, qui est engagé. Tu peux ne pas être d'accord avec son propos, mais tu as des jeunes qui se mobilisent pour quelque chose qui est important pour eux.
Oui.
Puis ça, de tous les temps, là, admettons, là, j'y vais dans un petit peu de sociologie, de tous les temps, la génération qui précède suit, va bâcher celle qui suit.
Oui.
T'sais, moi, ma grand-mère n'était pas d'accord avec le fait que ma mère travaille, qu'elle ait une carrière. Il aurait fallu qu'elle soit une mère à la maison. Mais ma mère, c'est pas comme ça qu'elle voyait les choses. Fait que la génération qui l'a précédée
a toujours
sur son dos.
Oui, on a toujours quelque chose à dire.
Il y a toujours quelque chose à dire sur la génération qui nous suit. Mais moi, j'ai vu en ce jeune homme-là, bon, premièrement, oui, j'ai tout remarqué, là, les affaires de son français qui n'est pas nécessairement adéquat, puis tout ça. Mais j'ai surtout vu un jeune qui avait envie de faire bouger les choses autour de lui, puis qui était prêt à se mettre sur la place publique pour mobiliser des gens à sa cause. Alors qu'on n'arrête pas de dire qu'ils sont des flambous fainéants qui veulent rien faire. Moi, je voyais l'inverse. Fait que moi, autant que je suis pas très, très émue par les gens qui veulent déchirer leur chemise sur l'interdiction du cellulaire, parce que moi, je n'y ai vu que du bon et mes filles également. Mais je trouve ça fantastique que ce jeune-là ose et qui se mobilise puis qui appelle à la mobilisation autour de lui.
Tu sais, il y a notre opinion personnelle, mais là où ça a dérapé beaucoup en fin de semaine, c'est la réaction des médias. Puis quand je dis que je trouve qu'on a un examen de conscience à faire, on a la chance d'avoir un micro en radio. Les gens qui sont à la télé ont la chance d'avoir une voix aussi, de la porter pour, mon Dieu, la société dans laquelle on vit. C'est un peu la critique que Fernel Morissette faisait sur ses plateformes en fin de semaine. Puis je pense qu'on peut plaider coupable autant à Boulevard qu'un peu partout parce que chacun a son opinion, puis c'est correct. Mais j'ai envie de l'entrer dans la conversation parce que son point m'a vraiment intéressé en fin de semaine. Farnell, bon matin.
Bon matin, comment ça va?
Ça va très bien, toi?
Ça va bien, oui.
Contente que tu te joignes parce que c'était cru, direct, mais juste pour moi, la publication que tu as faite sur les médias sociaux dans la journée d'hier. Puis j'ai juste envie simplement que tu nous exprimes ton point parce que tu as fait deux publications. La première où tu parlais de l'esprit de dissidence, j'ai envie que tu nous en jases, évidemment. Puis la deuxième où tu reprochais aux médias un peu d'avoir joué la carte, pardon, je vais appeler ça l'intimidation, là, mais d'avoir joué la carte de la critique forte, tiens, envers un jeune qui essaie de s'exprimer, quand au final, c'est un peu la raison de départ pour laquelle on enlève les cellulaires dans les écoles. C'est l'attention sur les écrans, mais c'est aussi l'intimidation qu'on a donnée comme raison. Fait que je te laisse la parole, mon ami.
Ben, je pense que d'abord, l'esprit de dissidence, c'est quand même quelque chose qu'il faut reconnaître. Puis là-dessus, vous l'avez super bien mis en place, je pense, bien exprimé. T'sais. Oui, on peut se dire là, que nous, de notre point de vue d'adultes, qui ont toutes les responsabilités, tous les stress, toute la réalité complexe de la vie d'un adulte, un jeune qui revendique le droit à son cellulaire à l'école, ça semble pas ce qui est le plus important pour nous. Ça, on le comprend. Mais il faut se mettre à la place des jeunes eux-mêmes. Eux, leur univers au complet, c'est l'école où ils se font dire quoi faire par des enseignants, puis ben, généralement, la vie à la maison où ils se font dire plus ou moins quoi faire par leur famille. C'est ça leur réalité. Et qu'un jeune dans cette situation-là veuille revendiquer, veuille se faire entendre, veuille refuser quelque chose qui lui est imposé par une autorité, oui, on peut se questionner à savoir est-ce que c'est vraiment la chose, on ne sait pas, mais qu'il y ait l'instinct de refuser, l'instinct de dire non, l'instinct de dire je veux être entendu, je veux être pris en compte, je veux qu'on soit considéré dans cette décision-là, ça c'est quelque chose qu'on devrait applaudir. et à l'intérieur de l'univers réel des jeunes où, encore une fois, les enjeux sont plus limités, c'est peut-être un enjeu important pour eux. Et ce qu'il faut reconnaître, c'est que oui, en tant qu'adulte, on a une responsabilité de dialoguer, de guider et pas de dire oui à ce que n'importe quelle demande de n'importe quel jeune vient, mais on a aussi une responsabilité de reconnaître qu'un jeune qui est prêt publiquement à s'exposer, à prendre le risque de se présenter et dire « je refuse quelque chose que l'autorité me demande » quand c'est pour son cellulaire, quand il a 15-16 ans, ben ça va faire un adulte qui, s'il est bien guidé, s'il est bien instruit dans cet instinct-là de dissidence, va être capable de dire non au gouvernement si dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, le gouvernement prend des mesures qui sont trop autoritaires ou qui vont contre les droits et libertés de tous les citoyens. C'est quelque chose qu'on devrait reconnaître, guider et apprécier plutôt que vouloir écraser comme on l'a fait.
Ben moi, j'étais pas capable de pas faire de parallèle avec Gabriel Nadeau-Dubois qui, quand
tellement.
Il était très jeune, dans la crise étudiante, avait pris la parole et tout ça, et s'était tenu debout pour ses convictions, et par la suite a été un élu pendant plusieurs années co-chef d'un parti politique à l'Assemblée nationale. Puis Dieu sait que Gabriel Nadeau-Dubois, tout comme Martine Desjardins et Léo Bureau-Blouin, avaient été vraiment, vraiment critiqués. Là, pour, puis on les traitait de petits chialeux, puis on les traitait d'enfants capricieux, puis de crise de bacon public. Puis, t'sais, mais il y avait un côté aussi dans le traitement médiatique peut-être qui était un peu différent, où est-ce qu'on était vraiment sous le charme du printemps étudiant également, où est-ce qu'on les trouvait beaux, ces jeunes révolutionnaires. Mais il y avait quand même des gens qui les avaient critiqués très fortement. Mais ce jeune-là, à l'âge de 15 ans, comme tu dis, Farnelle, va devenir un adulte si on l'accompagne bien, qui va être un atout pour la société par la suite, là.
Ben, je l'espère, en tout cas, et j'espère que les adultes dans sa vie vont prendre la balle au bon, puis prendre toute cette belle énergie-là et savoir l'encadrer, le diriger, lui faire une éducation civique qui va le compléter.
Ce que je trouve triste là-dedans aussi, c'est que en le ramassant comme on le fait dans les derniers jours, là, parce que ça prend... Tu sais, mettons que ça partait de nulle part. Là. Mettons que c'était pour être cool, là, tu comprends, qu'il sortait, parce qu'il parlait du cellulaire, mais il parlait aussi du monsieur-madame. Là. Mm-hmm. Moi, j'aurais voulu poser des questions. OK. Tu veux qu'on fasse la grève, tu sais? C'est correct, tu as un droit de revendiquer ça. Explique-moi ton point. Pourquoi tu veux faire la grève? Qu'est-ce qui te dérange là-dedans? À quel point de ne pas l'avoir dans la journée, pour toi, c'est un drame? Tu sais, j'aurais aimé ça qu'on joue cette carte-là au lieu de juste l'écraser puis le ridiculiser, parce que pour avoir été... Puis là, écoute, c'est pas le but n'est pas de faire une carte de pitié, mais pour avoir été une jeune fille, quand je suis au secondaire, très intimidée, là, c'est laquelle on a bien tapoché, là, je me dis... Il était conscient de la plateforme de médias sociaux. Il était conscient qu'il allait certainement avoir du positif puis du négatif quand il allait sortir. Mais de la part d'adultes, de la part de médias, j'ai comme l'impression que tu viens un peu d'y couper la langue. Tu sais, j'ai comme l'impression...
Pas juste lui.
Ah, mon Dieu!
Il y a combien d'autres jeunes qui ont vu le traitement qu'on a donné à ce jeune-là et les autres qui ont pris parole? C'est quoi la leçon qu'eux vont tirer? C'est quoi la leçon que nos enfants qui regardent la façon que notre classe médiatique se moque d'un enfant qui prend parole?
Vrai.
Quelle leçon eux autres aussi vont prendre?
Vrai.
Écoute, j'ai envie en fait que tu développes là-dessus. Ton point dans ta publication d'hier, c'était vraiment ça, qu'on n'a peut-être pas fait notre job comme média dans la façon de parler de cette situation-là. Tu vois quoi là-dedans?
Parce que je vois, c'est comme je disais, une opportunité manquée. Et j'en suis triste parce que c'est un enfant. Et puis je veux dire ça, on est bien vite à le dire quand on veut défendre d'autres choses. Mais là, soudainement, quand il y en a un qui nous répond, là c'est plus la même chose. Puis je trouve ça vraiment dommage. Entre autres, tu l'as dit, on veut limiter les cellulaires dans les écoles pour des très bonnes raisons avec lesquelles je pense qu'on est quand même tous relativement d'accord. Entre autres, éviter l'intimidation, permettre aux jeunes de faire l'apprentissage avant d'être exposés à l'arène du monde de la discussion sociale. Et qu'est-ce qu'on lui a fait? On s'est livré exactement le genre d'attaque personnelle, d'intimidation, de moquerie qu'on invoque pour bloquer les cellulaires à l'école. On lui a quasiment donné raison. Je veux dire, c'est nous, en tant qu'adultes, qui étaient supposés dire, OK, on va participer, on a un devoir collectif, C'est pas juste à l'école que ça se fait l'éducation. L'éducation des jeunes, ça se fait par l'exemple partout dans la société. Et puis, ben, au lieu de prendre nos responsabilités, qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé de lui comme si c'était un bébé, puis on a comme oublié que les jeunes nous regardent toujours. Je trouve ça vraiment, vraiment triste, vraiment dommage. Et puis, je pense que de la part surtout des médias qui se questionnent à savoir c'est quoi l'avenir, pourquoi les jeunes les écoutent de moins en moins, pourquoi ils sont sur Spotify, sur les balados, sur les podcasts. Puis après ça, on se vire de bord, puis on parle d'eux autres de cette façon-là. Je veux dire, la question est, la réponse est dans la question.
Oui, puis de voir aussi que de plus en plus les jeunes sont démobilisés politiquement, qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. Là, on en
aucun
a un
intérêt.
Qui s'y intéresse. Puis qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va le ramasser publiquement.
C'est le futur, mais de rien. Il y a un texto qui est entré. Je salue Marie-Ève qui dit: mon chum est prof au secondaire. Il a été amèrement déçu que le débat ne soit pas plus entendu, que la pluie soit là, fait qu'il y a des jeunes qui ne sont pas sortis. Ça fait partie de la démocratie et ça implique que la jeunesse, soyons fiers. Est-ce que, selon toi, Farnell, on aurait dû inviter ce jeune-là sur nos plateformes à la place? Tu sais, d'y donner la parole davantage? Comment tu vois ça?
Si ça peut être fait d'une façon encadrée correctement aussi, je veux dire, avoir la façon que certaines personnalités qui ont des plateformes de centaines de milliers, voire des millions de personnes, se sont moquées personnellement de ce jeune-là, j'irais pas le lancer dans la fosse aux lions, ce serait cruel. Et c'est dommage qu'on soit rendu là, que la confiance soit tellement basse que je suis pas certain que ce soit le chemin à prendre. Je crois qu'il y a comme un examen de conscience vraiment à faire, à se rappeler que les tribunes publiques ne sont pas des droits, c'est des privilèges. Les ondes appartiennent à tout le monde, sont réglementées par le gouvernement pour notre bien commun. Puis si on va l'utiliser pour mettre les égos de certains individus qui sont obligés de se montrer tellement plus fins, tellement plus intelligents qu'un enfant, de se moquer de son apparence, de se moquer de la façon qu'un enfant communique parce qu'il n'y a pas l'expérience de 30, 40 ans de carrière dans les médias, je trouve que vraiment, c'est pas une belle semaine pour les médias.
Moi, j'ai pas vu si lui est allé sur des tribunes, le jeune. Je sais pas si on l'a invité
à
quelques endroits.
Je l'ai pas vu.
Sauf que Farnell, tu touches un point important. Est-ce qu'on lui aurait rendu service alors qu'il n'a pas l'expérience médiatique de lui mettre un micro sous le nez puis de lui poser des questions, même si c'est des questions les plus simples et les plus élémentaires au sujet de sa cause? Est-ce qu'il aurait bien pu tenir la parole, tenir son discours et non pas le diminuer davantage? Je ne sais pas. Moi, je sais que le traitement que nous, on en a fait, ça a été de donner l'information. Il y a des jeunes qui pourraient participer aujourd'hui à une manifestation et tout ça. On n'y a pas donné de couleur. On a plus dit, ben voici ce qui se passe, puis ben, on va voir après ça, ça va être quoi l'ampleur du mouvement. Mais on n'a pas ciblé nécessairement le jeune en question et tout ça, mais Colin de Bien.
Il y a une comment t'appelles ça, mon Dieu? Y? Une
caricature.
Oui, mon Dieu, c'est lundi matin. Une caricature qui s'est beaucoup promenée aussi sur les plateformes de lui. Fait que j'ai l'impression que ton point venait peut-être de là aussi, à quelque part, Farnell, là, de dire, mon Dieu, on a ridiculisé ce jeune-là comme de façon beaucoup trop intense. Je trouve qu'on fait dur. Je trouve vraiment qu'on fait dur dans cette situation-là. Je pense que ce que j'aurais aimé, moi, c'est qu'au travers des commentaires sous cette publication-là, peut-être qu'on le questionne puis qu'on l'invite à faire d'autres vidéos pour s'exprimer. Tu sais, à la limite, il aurait eu le temps de se préparer comme il faut, de préparer ses arguments, de faire valoir son point à sa manière via les plateformes. Les réseaux sociaux n'ont pas juste du mauvais, au final, là. Fait que j'aurais trouvé ça intéressant, peut-être, qu'on l'invite à pousser le débat à son rythme, à sa manière, puis qu'on lui laisse peut-être un peu de place sans nécessairement, effectivement, l'amener à TV, là.
Puis je serais curieuse de savoir aussi, parce que je sais que ça s'est fait dans d'autres contextes, des fois, tu as des cabinets de relations publiques qui, quand ils voient une situation comme celle-là, vont offrir leur service pour pour protéger la personne, pour bien l'encadrer puis s'assurer que ça ne dérape pas davantage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a osé le contacter puis lui dire, regarde, il y a beaucoup, t'es pris dans une tempête. Là.
On va t'aider.
On va t'aider.
Ouais.
On va t'aider à bien faire passer ton message, t'sais, puis à l'encadrer là-dedans. Je sais pas s'il y en a qui l'ont fait.
Farnell, merci d'avoir pris le temps ce matin de venir nous jaser. Je suis contente. Au début, j'avais écrit à Farnell ce matin, puis j'avais dit, envoie-moi des messages vocaux. Là, je veux qu'on t'entende, je veux qu'on entende ton point, pas juste qu'on le lise en ondes, on fait de la radio après tout. Tu t'es rendu disponible, c'est super apprécié.
Bien, merci à vous, c'est toujours un plaisir. Puis je pense que c'est une discussion qui, j'espère, va avoir des échos, puis on va nous-mêmes en apprendre aussi.
Et je le souhaite. Et je te souhaite une belle journée, on se rejase.
Merci, salut.
Salut. Non, je trouve ça franchement triste. Puis je suis contente qu'on puisse en parler ce matin parce qu'on dirait que j'avais une frustration en fin de semaine de me dire, voyons, tu sais, je trouve qu'on est une gang d'adultes qui jouent aux enfants, justement. Tu sais, je nous trouvais un peu ridicule.
Mais là, admettons qu'on fait l'autopsie de nos réactions là-dessus, nous-mêmes, là. Donc, toi, t'avais tendance à dire, hey, c'est quand même pas si mal ce qu'il fait, mais toi, t'as pas osé prendre la parole. C'est bien ce que je comprends. T'as pas osé l'exprimer de cette façon-là la semaine dernière.
C'est-tu quoi? Pour être vraiment transparente, là, parce que j'ai senti que je faisais partie du problème aussi en faisant ça comme ça. La semaine passée, c'est dans le retour qu'on s'est mis à en jaser vendredi pendant une pause. Je sais même plus si le Twitch était ouvert. Pendant une pause, on s'est mis à en discuter, puis on n'était pas toutes d'accord dans l'équipe. On se relançait des points, ce que je trouve toujours intéressant.
Oui, j'adore quand on fait ça.
Mais oui, Denis a deux gars aussi là, qui s'en vont vers ces âges-là. Fait que je trouvais ça intéressant de jaser. Puis on a comme laissé ça en suspens, disant « Regarde, on en rejasera peut-être la semaine prochaine. » C'était vendredi PM, des fois c'était un peu plus lourd. Tu ne veux pas te lancer dans des gros débats. Puis on voulait voir aussi comment ça allait se terminer, justement, avec les dites manifestations et compagnie. Fait que c'était comme en suspens. Puis je pense que j'ai eu le temps de réfléchir en fin de semaine. Je ne savais pas si on allait revenir. Denis est malade aujourd'hui. Puis quand j'ai su que tu viendrais m'accompagner, on dirait que je me suis comme dit « Crime, il y a peut-être quelque chose là. » Je ne savais même pas, pour être bien honnête, c'était quoi ton point sur ça.
Ouais.
Mais j'avais juste hâte de voir, c'est ça, où est-ce qu'on pouvait mener la discussion. Puis je trouvais la façon dont Farnell l'avait exprimé sur ses plateformes vraiment intéressante, parce que les réseaux sociaux, il y a tellement de mauvais, puis on le décrit souvent, mais il y a du bon aussi. Puis c'est par là que ça passe maintenant. Ce jeune-là aurait pas, tu comprends, contacté les médias pour faire une entrevue officielle. Là. Lui parle à sa gang, ses jeunes de son âge, ouais, sur la plateforme,
ben oui,
pour les jeunes qui est TikTok.
Ben oui.
Puis je veux dire, nous autres, on a ramassé ça en se disant que ça allait être un sujet intéressant traité à radio, mais on l'a ridiculisé. Puis j'avais de la misère avec ça. Écoute, là, ça donne qu'on est trois qui est d'accord autour de la table. D'habitude, on essaie d'avoir quelqu'un qui nous challenge. 88-971-102, moi, je suis super ouverte à la discussion. Si vous êtes un parent, quelqu'un qui travaillait dans une école, qui est complètement à l'encontre de tout ce qu'on vient de dire dans les 20 dernières minutes, 971-102-1, très ouverte à lire. Puis je pense juste que je me remettais, pour être bien honnête avec toi, Kat, dans les culottes de la petite fille de 15 ans que moi, j'ai été. C'est vraiment ça qui m'a travaillé en fin de semaine, c'est de me dire, hey, moi, là, j'aurais jamais eu les gars de cet âge-là de faire valoir mon point. En fait, j'ai toujours eu de la misère à faire valoir mon point. J'ai toujours attendu écouter les points de chacun. J'ai toujours attendu de voir ce que les gens allaient penser. Je me suis toujours un peu reculée. Puis je faisais ma propre opinion dans mon petit coin à moi, tu sais, sans nécessairement oser la dire tout haut et fort, parce que moi, si tu me rentres dedans, je recule, j'ai pas le goût de me battre.
Ouais, ouais.
Fait que je pense que c'est un peu ça ma réflexion en fin de semaine, de me dire comme, hé, j'admire ce jeune-là, peu importe la façon dont ça a été fait, peu importe le débat, je m'en balance, que ce soit le monsieur, madame, puis que ce soit les cellulaires, parce que je suis d'accord avec ça, moi, qu'on l'impose, le monsieur, madame, puis les cellulaires, je suis d'accord. Mais c'est vraiment le processus des réseaux sociaux et de ce jeune-là qui s'exprime qui m'ont dérangé.
Oui. Mais je trouve aussi qu'on est très, très vite à condamner nos jeunes.
Ah, tellement!
Moi, tu sais, t'auras compris qu'il n'y a pas de pommes dans les boulots, fait que j'ai des jeunes filles qui sont très au courant de l'actualité, qui suivent ça beaucoup, qui s'y intéressent. Puis elles ont des opinions qui sont vraiment différentes des miennes. Puis je trouve ça fantastique de pouvoir échanger avec elles.
Oui.
Parce que... Puis je trouve ça fantastique parce qu'elles sont pas d'accord avec moi. Parce qu'elles m'apprennent leur vision, parce que je découvre des choses, parce que ça me fait sortir de ma chambre d'écho.
Absolument. Mais c'est ça, cette zone grise-là entre deux générations. Hey. On peut-tu se parler au lieu de se critiquer?
Oui.
C'est toujours quelque chose qui m'a tapé ses nerfs.
On peut-tu juste être curieux?
Oui.
Juste être curieux. Ah ouais, ouais, ça te dérange. Ouais.
Puis le pire, c'est que c'est facile. C'est vraiment facile parce que je vais prendre un exemple super simple, le service à la clientèle. Je me souviens quand moi j'étais jeune puis que j'allais porter mon petit CV en puis quand j'étais jeune, je suis encore jeune, on va se le dire, là, mais que j'allais porter mon petit CV en main, là, tu comprends, au gérant, puis je me souviens d'à quel point le service à la clientèle puis l'échange avec le client puis c'était tellement important, le sel était totalement interdit, tu pouvais en perdre ta job. Puis aujourd'hui, ben je vois des jeunes qui en passant la mop, mettons dans les toilettes d'un resto, sont sur Snapchat, tu comprends, quand moi je vais aux toilettes comme cliente, je vois des jeunes qui vont jaser en arrière du comptoir du Tim Hortons pendant 10 minutes sans se rendre compte que tu veux juste ton café. Puis je suis la première des fois à me surprendre à dire comme, oh mon Dieu, que ça m'énerve. T'sais, la nouvelle génération, justement, c'est tombé facile de dire qu'ils sont lâches, puis qu'ils ont le gros bout du bâton, puis qu'ils s'en foutent. Mais quand on réfléchit, c'est pas vrai. Ils ont juste une réalité qui est très, très différente. Puis ils amènent, je trouve, des points qui sont intéressants, puis on peut-tu juste ouvrir les oreilles?
Ouais.
Je pense que c'était ça que j'avais envie de...
Tu sais, il m'aurait pas converti à sa cause, là.
Ah, pas en tout!
Mais avoir la curiosité de...
Ouais.
OK. Amène-moi dans ton monde.
Exact.
Explique-moi ta réalité.
Tes arguments, c'est ouais, lesquels?
C'est ça. Puis c'est ça que j'aime faire avec mes filles parce que, comme je te dis, souvent, on n'est pas d'accord.
Mais oui.
Puis souvent même, je vais avoir un bagage de vie qui va venir appuyer pourquoi ils sont dans l'erreur.
Oui, non. Mais ça, faut pas leur dire.
Non, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ouais. Je souhaite pas avoir raison.
Ouais.
Je souhaite aller dans leur monde.
Exact.
Je veux comprendre c'est quoi leur réalité. Puis ça donne lieu à des échanges qui, moi, me font sortir, oui, de ma zone de confort, me font sortir de ma chambre d'écho, me font voir d'autres réalités. Puis ça, je trouve ça vraiment... Tu sais, en tout cas, moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ça. Et oui, je trouve qu'on a un examen de conscience à faire en tant que société.
Absolument.
Sur le traitement médiatique qu'on a réservé à ce jeune là, puis comment on a tout centré sur lui et non pas sur leur cause à eux.
Exactement. Catherine Bachan, c'est la belle voix que vous entendez qui m'accompagne ce matin dans l'Open Mic. Si vous venez de vous joindre, je m'appelle Audrey Pinchot. Vous constatez qu'il y en manque un. Il est malade. On ne sait pas s'il va être là demain, peut-être. Il repose sa voix en attendant. On a la chance aujourd'hui de recevoir une invitée dans les prochaines minutes qui va être intéressante. En fait, on l'a reçue à peu près un mois et demi. Puis j'avais eu beaucoup, beaucoup de plaisir à jaser avec elle parce que ce sont des métiers qui me rendent curieuse. On va parler avec Julie Nadeau dans les prochaines minutes, qui est travailleuse sociale en milieu d'urgence, c'est-à-dire qu'elle embarque dans les ambulances, elle embarque dans les chars de police, pompiers et compagnie, et elle est là pour sauver, je vais dire, la santé mentale de nos travailleurs d'urgence. Ces gens-là qui voient des affaires épouvantables au quotidien, qui sont dans le malheur constamment aussi, mine de rien. Fait que c'est un métier en soi de travailleur social, mais elle est vraiment sur le terrain. On a jasé de son métier il y a quelques semaines déjà, et là, aujourd'hui, on se concentre sur la santé mentale reliée aux conditions de travail de ces employés-là de domaine d'urgence. Vous avez des questions? 88-971-1021, c'est le texto. Vous ne vous gênez pas, il y a toujours le téléphone au 780-1021, la communauté Twitch aussi, twitch.tv, BLVD, barre en dessous, FM. Je vous dis que c'est dans quelques minutes. On a Jérôme 50 à l'instant dans l'open mic, la plus belle fille du mosh pit. On se retrouve dans quelques minutes.
Le bon calcul, 136 par semaine, taxes incluses.
Chez Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair.
Je vous ai souvent parlé du collège des Hauts Sommets. J'ai beaucoup d'amour pour cette école privée-là qui, selon moi, sur laquelle, en fait, on pourrait prendre exemple dans notre système public. C'est une école mixte avec des résidences scolaires aux besoins. Et la spécialité du collège des Hauts Sommets, c'est les élèves avec handicap ou qui sont en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. On connaît tous quelqu'un qui a un enfant qui vit avec des difficultés scolaires. Là, ça peut être un simple besoin d'encadrement. En passant, c'est pas obligé d'être un défi extrême non plus. Et le collège des Hauts Sommets est là pour ça. Donc, pour vous donner une idée, là, en 2021-2023, c'est 237 581 élèves en difficulté d'adaptation qu'on comptait au Québec. C'est énorme. Vous comprendrez qu'on ne peut pas tous les aider, mais il faut savoir que ce qui fait notre force au collège, ce sont les ressources. Les élèves suivent le programme régulier du ministère. Ils ont un diplôme d'études secondaires qui est accessible à la fin du parcours, mais ils sont accompagnés constamment par plein de professionnels. Et je vous parle du Collège des Hauts Sommets aujourd'hui parce que pour aider nos futurs élèves dans leur parcours, on a des bourses d'études. Il faut les financer, ces bourses d'études-là. Vous comprendrez. Et on a une nouvelle campagne qui s'appelle « Donner la réussite ». 100% des fonds amassés vont être remis aux bourses d'études. Il y a deux façons de donner. Un don ponctuel, donc un don régulier, ou un don mensuel qui est un petit montant par mois. Peu importe le montant du don, là, cette campagne-là, bien, je trouve que c'est une belle façon d'entrer dans le monde de la philanthropie. C'est une école qui crée beaucoup, beaucoup de changements auprès des jeunes. On a des élèves de 36 municipalités qui couvrent 9 régions administratives cette année. Ça vous donne une idée de l'ampleur de ce qu'on peut faire. Pour faire un don, c'est assez simple. C'est le www.collegedeshautssommets.com/fondation.
Le saviez-vous?
Vous êtes à Boulevard 102.1, 10h44. Vous avez envie de nous jaser? Il y a toujours le 88-780-1021. Vous pouvez nous appeler. Il y a le 971-1021 par texto également. C'est toujours disponible aussi. La belle communauté Twitch, on est rendu à 4000 personnes qui se connectent ici et là tous les jours. 4000 abonnés. Je connaissais pas Twitch avant qu'on commence à l'utiliser à Boulevard 102.1. Puis je me rends compte que c'est une sacrée belle communauté. Avez-vous ça du côté de week-end, Kat?
Non.
Honnêtement.
Bonne affaire, je pense qu'on l'a pas.
Pour hors des ondes.
Seigneur! Non, je pense qu'on perd tout notre job.
Ben, tu vois, on s'est dit ça beaucoup. Les premiers mois, on avait de la misère, on s'empêchait de parler, c'était épouvantable. On s'arrangeait même. Là, on était comme, mon Dieu, on est filmé, tu sais. Maintenant, on s'habitue puis on se rend compte qu'il embarque dans nos niaiseries. Grande communauté. C'est mais,
voilà, je te raconte. Parce que, tu sais, des fois, nous, à week-end, on a fait des émissions 100 % live. Ça veut dire qu'on ne ferme jamais, jamais les micros. La publicité est en direct, ouais. La musique est en direct, tout est en direct. La première fois qu'on a fait ça, Martin a amené son fils avec lui pour s'assurer de bien se gérer.
Arrête!
Ouais, ouais, ouais.
Pour être sûr de ne pas dire trop de niaiseries.
C'est ça. Ça n'a pas marché.
Oh, c'est
ça
bon!
Ça n'a pas marché, même si son fils était là. Fait que t'imagines-tu si on avait Twitch?
Ben écoute, je te dirais qu'avec le temps, on s'habitue, mais moi, c'est une communauté que j'apprécie beaucoup. Ils sont assez hot, là. Ils s'autogèrent, premièrement. Là. Souvent, on n'a même pas à embarquer dans la conversation. Et ils se sont même créé un groupe Facebook.
Ben voyons!
Où ce sont les auditeurs du Twitch de Boulevard, puis ils vont aux événements ensemble, ils se font des soupers, des... Sérieux, c'est vraiment trippant à voir aller.
Wow.
Je connaissais pas la plateforme avant qu'on commence à faire ça. Puis tu vois, maintenant, c'est un peu un incontournable. Fait que vous avez envie de joindre la communauté, vous n'hésitez pas sur le twitch.tv, BLVD, barre en dessous FM. En plus, ben, vous voyez un peu les dessous de la radio parce que on laisse les micros ouverts pendant les pauses, les chansons, étant donné qu'il y a des droits puis qu'on peut pas les diffuser. Ce qui fait que vous avez un peu accès aux dessous d'eux. On continue la conversation souvent hors d'onde. Vous êtes toujours les bienvenus. On parle ce matin avec Julie Nadeau, qui est travailleuse sociale en milieu d'urgence. Julie Nadeau, qui a été un vrai coup de cœur pour moi, Kat, là, est venue il y a à peu près un mois et demi, nous a jasé de son métier. Travailleuse sociale, on sait un peu ce que ça fait, on s'imagine un peu ce que ça fait. Par contre, en milieu d'urgence, ça veut dire que Julie a les pieds directement sur le terrain. Elle est avec les pompiers, elle est avec les policiers, elle est avec les paramédics, puis elle s'assure d'aider au niveau de leur santé mentale, parce que ces gens-là, veut pas, ben ils voient du négatif pas mal tous les jours. Et cette semaine, c'est la semaine de la police. Fait qu'on s'est dit, regarde, c'est un contexte pour y rejaser. Ça se tient jusqu'au 17 mai sous le thème « Au cœur de l'action, l'humain avant tout ». Puis c'est ce qu'on fait dans l'open mic, essayer de mettre l'humain de l'avant. Julie, bon matin.
Hey, bon matin, contente d'être de retour.
C'est toujours un plaisir de te jaser. Là, l'angle qu'on prend ce matin, c'est vraiment de parler de la santé mentale de ces travailleurs-là, reliés avec les conditions, finalement, dans lesquelles ils travaillent.
Absolument. Et c'est ça la différence entre une travailleuse sociale, une psychologue, puis j'ai rien contre les psys, je travaille avec eux. Par contre, en travail social, on essaie toujours de regarder c'est quoi l'environnement dans lequel la personne se trouve pour essayer de comprendre est-ce qu'il y a des maladies mentales qui se développent parce que les conditions de travail, par exemple, dans le cas présent, ont une influence. Fait que c'est ça que je viens vous jaser ce matin.
Peux-tu peut-être juste nous rappeler, mettons, pour les gens qui n'étaient pas là,
oui.
Là, parce qu'on s'entend, on n'a pas toujours le même monde qui est là au même moment. Concrètement, ce que tu fais au day-to-day, toi, avec ces gens-là?
Oui. Moi, je fais des suivis en individuel avec policiers, pompiers, paramédics, agents des services correctionnels qu'on oublie souvent, qu'on appelle à tort gardiens de prison, et les répartiteurs 911, militaires de temps en temps. Fait que ça, c'est ma clientèle. Fait que suivi individuel, suivi de groupe à post-événement, qu'on appelle les debriefings, et je fais de la formation également avec cette clientèle-là.
Tabac dans le char, là. Carrément.
J'ai souvent mes bottes à cap, ma petite veste rose, et je vais gambader sur le terrain avec eux, et j'ai beaucoup de plaisir.
Je trouve ça le fun. On entend souvent parler, bon, du stress des intervenants d'urgence, mais qu'est-ce qui use vraiment dans leurs conditions de travail au quotidien? Parce qu'il y a une grande imprévisibilité, je veux dire, ils ont des horaires qui sont atypiques, c'est le bordel. Là. Souvent, ça affecte aussi la famille, l'entourage.
Absolument. Je vais commencer par les paramédics, parce qu'il y a un mouvement de grève qui s'en vient chez les paramédics. Paramédic de la CSN, fait que je viens pas faire de la politique ce matin, mais j'ai expliqué un peu les doléances de cette gang-là. Paramédic, qu'on appelle à tort ambulancier, dans le fond, vivent des situations difficiles. Il y a une surcharge présentement au niveau du système de santé. Hein? On sait que ça va bien au niveau du système de santé. Ça fait 30 ans, je suis dans le domaine.
Numéro 1.
On a rien à signaler.
Numéro 1.
Il y a beaucoup d'attentes dans les centres hospitaliers. C'est vraiment ce qui ressort présentement. Fait que les paramédics, là, mettons, on est à Québec présentement. Les paramédics iraient chercher un patient, une patiente qui va pas bien. Il irait attendre à l'hôpital peut-être un 2, 3, 4, 5, 6 heures à côté du patient. Fait que là, ils entendent sur les ondes qu'ils rentrent, par exemple, un appel pour un arrêt cardiaque, mais ils peuvent pas y aller parce qu'ils sont vissés à l'hôpital. On appelle ça la rétention. Et à l'heure actuelle, c'est extrêmement difficile. On sait pas quand on va manger, on sait pas c'est quand notre fin de corps, puis on attend, puis c'est pas ça la job qu'on voulait faire dans la vie. Fait que ça, c'est un enjeu pour les paramédics.
Mais tu sais, juste là-dessus, là, je pense qu'il y a bien des gens du public qui savaient même pas ça. Ils prenaient pour acquis que des ambulanciers viennent chercher quelqu'un, excusez mon langage, va le domper à l'hôpital,
exact.
Puis repartent sur la route. Mais c'est pas ça pantoute qui se passe.
Pantoute. C'est ce que la loi dit. tu as absolument raison, Catherine. Sauf que dans la réalité, c'est que, par exemple, l'hôpital ne serait pas prêt à accueillir cette personne-là. Ils n'ont pas de lit disponible.
Parce que les urgences débordent à 200 %, ils n'ont pas de lit.
Exactement. Donc, les paramédics, pendant ce temps-là, vont garder la personne pour s'assurer, oui, qu'elle est monitorée puis qu'on s'assure que ses signes vitaux sont corrects. Mais c'est aussi en attente parce qu'il faut que quelqu'un s'occupe de ce patient, de ce patient.
C'est quasiment insultant. T'sais, j'ai eu la chance, il y a 2 ans, dans le cadre de la semaine des paramédics, d'aller passer une journée avec Stéphane et Sylvain, je vais les saluer, qui m'ont accueilli comme genre de stagiaire. Fait que j'ai eu la chance vraiment de passer la journée dans l'ambulance avec eux, de débarquer sur les cas qu'ils avaient. Puis ça, c'est une des premières choses que j'ai remarquées parce que moi, quand la journée a commencé, je me disais, hey, ça va aller au toast, là. On va voir du monde aujourd'hui, ça va être le fun. Puis première personne, on était encore, les cas de COVID étaient encore très présents.
Oui.
Puis première personne qu'on pogne, c'est une affaire de COVID, mais ça fait en sorte qu'il y a des conséquences sur l'état de la personne. Puis ça a été ça, là. On est arrivé dans le garage de l'hôpital, puis on a passé un petit bout là, parce que là, ils sont pas prêts à faire rentrer la civière, ils sont pas prêts à placer la personne, tu peux pas laisser dans le corridor, ça arrive de quoi? Fait que les paramédics sont responsables de cette personne-là jusqu'à ce qu'il y ait une prise en charge, puis effectivement qu'il y ait une impuissance pour les paramédics.
Ben oui.
Parce que là, tu vois, il y a des calls qui rentrent. Il manque pas de paramédics, mais il manque de véhicules. Ce qui fait en sorte que quand il y a des appels, ben, s'il y en a un qui est prêt à l'hôpital, il y a personne qui est sur le terrain. Puis c'est là qu'on voit après ça les temps dans les médias. Puis, fait que c'est épouvantable de voir à quel point même eux sont un peu démunis de ça, parce que c'est pas un manque de vouloir, là. Ils ont juste pas le choix.
Exactement. Fait que ça fait en sorte que les gens se sentent pas utilisés à leur plein potentiel, je vais dire ça comme ça. C'est beaucoup ce que j'entends dans mon bureau, puis quand je sors sur la route, c'est « Hey, moi, j'ai pas choisi d'être préposé. » Rien contre les préposés, mais moi, j'ai choisi d'être paramédic. Je voulais être dehors, je voulais être dans mon truck. Puis là, finalement, je me retrouve à l'hôpital en train de surveiller un patient qui est peut-être même pas instable. Hein, t'sais, fait que je suis peut-être pas dans une surveillance médicale. On comprend tous qu'il y a une obligation, puis bon, l'idée, c'est pas ça, mais c'est plus de démontrer que ces personnes-là font pas ce qu'ils voulaient faire, en fait. Ça, c'est un enjeu super important du côté des paramédics à l'heure actuelle.
Est-ce qu'il y a une reconnaissance de la part du milieu par rapport au... Parce qu'on parle souvent de manque de reconnaissance.
Oui. Et pour toutes les professions que je viens de vous parler ce matin, il y a un manque de reconnaissance qui prend différents angles, je dirais. Chez les paramédics et les pompiers, à chaque année, il y a un sondage léger pour dire la population fait confiance à qui? Numéro un, il y a une chicane entre les paramédics et les pompiers. Donc, ça alterne un peu l'espèce d'amour du public, ce qu'on n'a pas chez les policiers, on s'entend. Puis chez les agents correctionnels, bon, c'est pas qu'ils existent. Fait qu'à part dans le temps d'unité 9, le reste du temps, on se rappelle même plus qu'ils existent. Policiers, bien évidemment, hein, on fait le procès souvent de la police. Ce que je constate cette année, c'est que les paramédics commencent à être un petit peu plus torqués, je dirais, par la population. Ça fait plusieurs interventions qui sont filmées. Moi, ça fait 7 dossiers cette année que j'ai fait de paramédics qui ont été filmés sur leur intervention. Puis évidemment, il y a un petit montage qui se fait, puis on n'a pas le meilleur bout probablement de leur intervention. Fait que là, on fait ce que j'appelle le Tribunal populaire du Québec, c'est-à-dire la zone de commentaires sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Donc, on fait leur procès. Fait que la reconnaissance, elle n'est pas tant là. Chez les paramédics, c'est face aux autres professionnels de la santé, des fois. J'ai entendu souvent, là, tu sais, moi-même, votre taxi arrive, madame, parce que c'est l'ambulance.
Oh, mon doux.
Apply.
Et le pire, c'est que c'est pas pour rien qu'on a changé le terme ambulancier à paramédic dans les dernières années, parce que ambulancier, puis là, écoute, je parle d'un temps où j'existais même pas, mais de ce que je comprends, on transportait littéralement les malades à l'hôpital, mais
absolument.
Maintenant, les paramédics, c'est toute qu'une formation, là.
Oui.
Et ils en font des affaires, moi, de dire, dans leur cabine jaune, là, puis c'est médical sur un méchant temps. Il y a un long processus. Oui. Puis c'est la première chaîne, en fait, le premier maillon, j'ai envie de dire, d'une longue chaîne. Ce qui se passe dans l'ambulance souvent va dicter ce qui va se passer à l'hôpital.
Oui, absolument.
Autant sur l'état du patient que l'humeur du patient. Tu sais, j'ai envie de dire, puis ce sera à toi, Julie, de me dire si je me trompe, là. Mais moi, ce que j'ai remarqué dans cette journée-là où j'ai eu la chance de les accompagner, c'est qu'on dirait qu'ils sont aussi un peu travailleurs sociaux, les psys.
Oui.
Tu sais, je veux dire, ils en entendent en tabarnouche, je vais dire, dans cette cabine-là, là, roulante. Là, c'est assez fascinant. Là.
C'est, le rôle a changé, puis c'est la même chose du côté des policiers, parce que moi, quand j'ai commencé en 97, les policiers faisaient de la police. Donc, on était code criminel, code de procédure pénale, code de sécurité routière, puis on était pas mal là. Maintenant, les appels avec un volet santé mentale sont beaucoup plus élevés. Donc, on parle d'intervenants d'urgence qui deviennent intervenants psychosociaux dans bien des cas, avec une formation de 60 heures sur la santé mentale, puis arrange-toi avec ça.
Pis même pour les policiers aussi.
Absolument, c'est la même chose du côté de la formation. En technique carcérale, c'est la même chose. On donne 60 heures en santé mentale pour l'AEC, ceux qui font l'AEC en service correctionnel pour enseigner dans cette discipline-là. Et ben, on leur demande d'aller s'arranger avec des gens avec une formation plus ou moins efficace, je dirais, puis dans un rôle qui est un peu contradictoire aussi. Tu sais, pour les policiers, c'est que t'es la personne qui va sanctionner, mais tu devrais aider aussi. Fait que t'as un rôle un petit peu bizarre, dans le sens où c'est un peu paradoxal. Comment tu crées un lien, tu sais?
Je trouve ça particulier parce que les policiers, maintenant, apprennent même dans leur formation à l'école comment, justement, jouer avec ça. Puis ça démontre un peu à quel point la société va mal, là, dans la mesure où, sur le terrain, il y a la moitié de leurs appels en soirée que c'est souvent des gens qui vont avoir envie de potentiellement mettre fin à leur jour. T'as beaucoup de problèmes de santé mentale avec l'itinérance. Ouais. Fait que souvent, t'as l'impression, quand t'es jeune, que tu vas te diriger vers un métier où tu vas sauver le monde, tu vas être sur des grandes scènes de crime, tu vas enquêter, puis finalement...
à la société.
Oui. Puis finalement, c'est pas ça pendant tout que tu fais, là.
Ouais.
Tu sais, t'es sur le terrain parce qu'il manque aussi, veux pas, de psychologues, de travailleurs sociaux. Il y a un manque de ressources partout, fait que t'as pas le choix de prendre ce rôle-là sur tes épaules.
Moi, Julie, t'as mentionné quelque chose, là, les médias sociaux, des interventions qui ont été filmées puis qui sont retrouvées sur les médias sociaux, puis moi, j'en ai en tête.
Oui, je vois, j'ai vu ta réaction.
Puis je veux, tu sais, je veux pas non plus cibler quelque chose, mais moi, ce que j'avais vu, c'était profondément troublant aussi comme intervention de la part des paramédics. Tu sais, j'étais là, coudonc, ils ont-tu des techniques, ils ont-tu appris quelque chose? J'aurais pas fait pire, tu sais, ou j'aurais pas fait... Si moi, j'étais allée, là, c'est certain que j'aurais pas fait mieux qu'eux autres, puis ça aurait pas pu être pire, là, tu sais, sur des transports de patients et tout. Comment on peut se retrouver avec des situations comme celle-là?
Bien, j'ai l'impression, puis c'est pas pour cautionner les comportements de qui que ce soit, mais des fois, il y a comme une usure aussi face au métier, une désillusion super importante, puis je cautionne pas aucun geste, évidemment, qui manque de classe, là, et de savoir-être. Ce que moi, il me dérange, c'est plus qu'on utilise les réseaux sociaux au lieu des mécanismes de protection, c'est-à-dire le protecteur du citoyen, c'est-à-dire le commissaire aux plaintes, c'est-à-dire le CIS ou CIUS qui va recevoir la plainte dans le cas des paramédics. C'est plus ça, moi, mon take là-dessus. Par contre, je pense qu'il y a une usure et pour certains, je pense qu'il y a une incompréhension. Puis là, si je pense aux paramédics, j'ai travaillé avec un cégep l'an dernier à leur dire, arrêtez de leur dire qu'ils vont sauver des vies. Tu sais, sauver des vies ou des cartes d'appel qu'on appelle les cartes neufs, donc arrêt cardio-respiratoire, c'est infime. Ce qu'ils vont faire beaucoup plus, c'est de la gérontologie, de la santé mentale. C'est une chute dans un RPA que, si tu penses sauver une vie sur une chute, tu sais, chute de sa hauteur, c'est pas ça que tu vas aller faire. Fait que pour certains, ce que moi, je constate, puis on le voit dans des statistiques non officielles, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont quitter le métier très tôt. Un, parce qu'on leur offre pas des horaires extraordinaires. Puis là, je parle pas de travail de nuit, parce qu'on sait tous qu'il y a des horaires de nuit, mais c'est l'alternance, un jour de soir, un jour de nuit, change de partner, etc. Fait que, encore là, je rappelle que je ne cautionne pas. Je cherche à expliquer des fois des comportements de dépassement.
Oui, c'est ça, c'était ça ma question.
Oui, puis c'est ça que je le sentais comme il faut, mais t'as coup que quelqu'un comprenne pas la bonne chose.
J'ai même envie d'ajouter à ce que tu dis, Kat, ce qui est plate avec le tribunal social des plateformes puis des réseaux sociaux, c'est qu'on va teinter la profession au complet au lieu de.
Des individus.
Au lieu de punir un individu qui aurait mal fait sa job ou qui aurait mal fait les choses. Je trouve que c'est là, des fois, que c'est tannant. Là.
Absolument. Puis c'est pour ça que j'appelle ça le tribunal populaire du Québec, là, parce que en fait, c'est des instances qui vont sanctionner très vite et des gens qui vont avoir des opinions. J'ai un personnage fictif que j'appelle Francine de Repentigny, qui, elle a écouté District 31, fait qu'elle sait comment faire une perquisition.
T'sais. Ah ben oui, on a les stats aussi.
Oui,
hein,
c'est ça, les spécialistes.
Oui, oui, oui.
Donc, ce que ça fait, justement, c'est que ça va blâmer la profession complète au lieu de dire, bien, il y a peut-être des comportements répréhensible de X personnes. Puis là, ça teinte l'ensemble des gens. Puis ça c'est pas cette partie-là qui vient me déranger. Parce que c'est des gens habituellement de cœur. Puis là, je parle de tous les intervenants d'urgence. Si je fais une parenthèse sur le carcéral, ça fait plus de 2 ans au provincial qu'ils sont en mouvement de pression. Tu sais, il y a un levier très difficile par rapport au gouvernement. On veut pas socialement que les prisons existent. Si vous passez en avant de l'établissement de détention de Québec, il y a des affiches partout. Oui. Il y a beaucoup d'entrées non sécuritaires avec les drones, les téléphones cellulaires. Se font livrer du Uber.
Du McDo,
c'est ça.
Se font livrer du McDo par
l'autre. Puis là, les agents correctionnels, c'est toujours leur sécurité qui est en jeu là-dedans aussi. Donc, évidemment, c'est des professions où on parlait de reconnaissance qui n'en ont pas nécessairement. Les paramédics en ont plus. Les pompiers en ont beaucoup aussi. Mais pour les pompiers, si je parle de conditions de travail, en fait, il y a 2 éléments fondamentaux. Un, on commence à mettre de plus en plus de premiers répondants. Le gouvernement se dit, on manque d'ambulances sur le terrain, donc on va faire quoi? On va prendre nos pompiers en caserne, qui font de la garde en caserne. On va les former 60 heures. Le mot-clé, c'est 60 heures ce matin. 60 heures de formation en premier répondant. correspondant versus un DEC en service préhospitalier d'urgence. Et on va leur demander d'aller faire la première partie des appels médicaux. Vous dire combien de pompiers me disent « Hey Julie, moi, ça ne m'intéresse pas dans la vie. Moi, je voulais éteindre des structures en feu. Je ne voulais pas, moi, aller faire des soins médicaux en allant chez la madame, en constatant de l'amassement compulsif, de la santé mentale difficile, des enfants négligés, 42 chats. Je veux dire, moi, ce n'était pas ça, ma job. Moi, je m'en allais éteindre des feux. »
J'ai l'impression que c'est déception après déception aussi parce que je reparle de cette fameuse journée-là où j'ai accompagné les paramédics juste parce que c'est le seul exemple que j'ai en tête. Mais à la fin de la journée, je me souviens qu'on a eu un appel P1, priorité 1, fait que là, t'es comme en urgence, t'es ces sirènes, tu comprends, il y a quelqu'un qui va mourir, là. Il pensait que la dame faisait une genre de crise cardiaque pour se rendre compte que la dame était une immigrante qui avait des problèmes avec son visa, elle était là-dedans depuis des semaines, et ce qu'elle était en train de faire, c'est une crise d'anxiété, parce qu'il n'y a rien qui avançait. Puis quand on est arrivé sur place, il y avait les fameux premiers répondants. Fait que là, ils sont comme 8 pompiers, tu comprends, qui arrivent sur place, et le moment où ils rentrent dans la maison, la dame se calme parce que c'était une crise d'anxiété et là, elle se sent prise en charge, fait que ça va mieux. Et là, t'as ces pompiers-là à l'extérieur avec qui jase pendant que les paramédics font leur job parce qu'il faut quand même qu'il y ait un processus qui doit se faire quand tu débarques, là. Puis les gars, c'est un peu ça qu'ils me disaient, là, t'sais. Nous autres, c'était quasiment le moment excitant de la journée où on se disait « Oh, au moins, on va se déplacer comme premier répondant pour quelque chose, tu sais, ça va être...
Ouais. »
Finalement, c'est pas ça nécessairement.
Mais sais-tu quoi, pour l'avoir vécu, là, avec mon papounet d'amour qui a eu un enjeu, puis où... Je l'ai perdu quelques secondes, là, pour vrai. C'est un policier qui est rentré dans la maison en premier. J'étais tellement heureuse
rassurée
d'avoir quelqu'un.
Ouais.
Oui. J'étais plus toute seule, tu sais. Ça m'a tellement fait de bien, là. Là, j'ai fait « OK ». Puis ils sont arrivés rapidement.
Ouais.
Fait que là, moi, j'ai aussi pu prendre sur moi puis être davantage présente avec papa. Puis, tu sais, on n'a pas fait venir l'ambulance pour rien, là. Il y avait vraiment un enjeu cardiaque et tout. Puis, mais Seigneur, je comprends que le policier, c'était pas ça que c'est sa job nécessairement puis qu'il n'est pas allé à Nicolette pour faire ça.
Non. Mais le trouble, c'est peut-être justement qu'on n'a pas les bonnes ressources aux bonnes places. Parce que tu as tellement raison, Kat.
Oui, mais tu sais, en même temps, s'il avait fallu qu'on fasse le massage cardiaque à papa, j'ai l'impression que cette personne-là aurait
ça
davantage
aurait
été mieux.
Oui,
aurait été mieux équipé et organisé mentalement que moi.
Ça certainement, ils sont habitués à cette pression-là. Là.
Oui, mais là, t'es la fille, hein? Fait que ça marche pas, même si t'avais le meilleur RCR. Je veux dire, quand on est relationnellement impliqué, ça marche pas.
Ça, je trouve ça intéressant. Tu sais, il y a un stress qui vient avec ces métiers-là parce que justement, ils sont habitués, ils ne veulent pas de gérer ces situations d'urgence-là. J'imagine qu'il y a un voile qui se met à un moment donné, là, tu sais, pour éviter d'être touché personnellement. Puis toi, c'est ce avec quoi tu travailles, finalement, on va se le dire.
Absolument.
Le stress, est-ce qu'il vient des situations d'intervention où ça, on s'habitue? Ou c'est plus l'organisation de travail, peut-être?
L'organisation de travail, mais j'ai envie de dire, les situations, c'est pas tant le fait de faire le massage cardiaque, dans le cas comme tu viens de donner, Catherine, c'est plus le contexte dans lequel on s'en va. Est-ce qu'il y a des gens sur place? Est-ce que la famille est sur place? Est-ce que la famille est en crise? Est-ce qu'il y a 12 voisins? On appelle ça des wearers sur le terrain.
Mon Dieu,
donc,
oui.
Y a-tu plein de gens qui s'en vont checker voir ce qui se passe? J'ai-tu une pression de performance parce que j'entends sur les ondes radio d'autres appels, j'entends qu'il manque de véhicules. Ça, c'est vraiment quelque chose que je sens. Fait que oui, les situations peuvent avoir une couleur, mais j'ai envie de dire que l'émotivité de la scène, moi, c'est beaucoup ça que je vais recevoir en débriefing et c'est souvent des questions que je vais poser. Fait que sur un suicide, je ne vais pas dans les détails, je ne veux pas scratcher les oreilles de personne, mais sur un suicide, par exemple, ben, il va y avoir une différence sur le moyen qui est employé, les gens qui sont sur place, l'âge de la personne. C'est pas tant la scène dans le sens du sang, puis je vois pas plus loin dans mes détails. C'est vraiment beaucoup ce qui se passe. Qui est là? Qui réagit comment? Et ça, cette préparation-là, pour enseigner au cégep, je veux dire, c'est dur à reproduire, parce que même si tu mets des comédiens puis du faux sang, je veux dire, ça reste une évaluation. Ton évaluation vaut 30 %, tu le sais que tu es en contexte d'évaluation. Quand tu arrives dans la vraie vie, puis que tu es fatigué, puis que tu es en fin de corps, puis tu es peut-être en temps supplémentaire obligatoire, ça se peut que ça rentre différemment dans ton cerveau. Moi, j'appelle ça des scratchs. Fait que ton événement traumatique va faire une scratch différente parce qu'il y a une émotivité sur la scène. J'avais un pompier ce matin, je disais tantôt à Audrey, avant d'entrer en onde, j'avais plein de gens qui m'écrivaient parce que je disais que j'étais à la radio ce matin. Il y a un policier qui m'écrit en privé pour me dire « Oublie pas de parler de quand on est dans notre communauté. » Ah, si c'est quelqu'un que je connais, j'ai beau être une police, un paramédic, un pompier, mais si ça arrive chez Jean-Guy, mon voisin,
c'est
je connais, moi, Jean-Guy. Là, fait que je suis plus dans une scène, je suis dans Jean-Guy et la situation. Ça, c'est un facteur super important.
Comment ils font pour pas être brisés? Tu sais, t'étais des années à faire ce métier-là. Je t'écoute, Julie, puis moi, voir un suicide demain matin, là, probablement que je suis brisée pour une couple d'années. Laisse-moi me reconstruire. Eux, c'est tous les jours. Puis j'adore le métier que tu fais, mais
malgré ce métier-là, malgré l'aide qu'on peut t'apporter, c'est parce qu'à un moment donné, c'est beaucoup sur le cœur, sur la tête, là.
Bien, ils ont des mécanismes assez cute qui s'appellent l'humour louche. Ils ont un humour assez particulier, honnêtement.
J'appelle ça doit être louche.
Ah oui, je dis louche parce que...
En fait, je me demande si ça peut des fois ressembler à de l'humour de journaliste.
Ah, certainement. J'en doute absolument pas, mais c'est une façon de... Tu sais, la dérision va créer une distance par rapport à l'événement.
Oui.
Fait que des fois, ça va loin. Okay, oui. Des fois, puis je suis certaine que c'est la même chose chez les journalistes parce que je vais dans les salles d'urgence, puis c'est la même chose chez les médecins, infirmières, préposés. Donc, on prend une distance par rapport à l'événement avec cette stratégie-là. Tu sais, on parlait d'exposition. Je ne me rappelle pas si je l'avais dit la dernière fois, mais c'est 600-850 scratch dans une carrière au Canada versus 2 à 3 dans la vie de monsieur, madame, tout le monde. Je la répète souvent, cette stat-là, parce que c'est vraiment important. Fait que l'humour, le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait faire aussi. On appelle ça la satisfaction de compassion. Donc, réussir à se dire, ben moi, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. C'est la différence qu'on peut faire, c'est dans l'humanité, pas juste dans les soins puis dans la façon de faire les choses, c'est aussi de dire, je suis repartie avec le sentiment du devoir accompli.
Moi, ça s'appelle la satisfaction de?
De compassion.
La satisfaction de compassion.
Versus la fatigue de compassion qui est l'usure de l'être humain qui va toujours mal. Fait que la satisfaction de compassion, c'est vraiment une façon de dire, j'appelle ça l'antidote à la fatigue de compassion, le cynisme, le burn-out, tout ça. En fait, l'autre côté, c'est de dire, je retrouve quelque chose, c'est ça pourquoi que j'ai fait de la job. Fait que si je reviens à mon paramédic en rétention, c'est dur d'avoir une satisfaction de compassion quand t'attends l'urgence puis qu'il est là.
C'est pas valorisant.
Il y a 8 civières, vous êtes 16 paramédics, tout le monde finit par jouer sur son téléphone parce que qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ici? Puis des fois, honnêtement, tu sais, pour y aller souvent sur la route, des fois, je suis comme, ah, mon Dieu, on est complètement imbécile puis on oublie qu'il y avait des patients. Je m'inclus là-dedans parce que ça finit par... Ben, on oublie qu'il y a du monde. Puis
c'est tellement blasant à un certain point que...
Tu vois, Audrey, satisfaction de compassion, ça va être toi, ça, aujourd'hui. Avec tout ce que tu as fait, puis pour réussir à pied levé.
Au nombre de mises à jour qu'Audrey m'a faites sur l'émission.
Tu vois, ça va être aujourd'hui, tu vas pouvoir te coucher avec la satisfaction de compassion que tu as été utile aujourd'hui, puis que tu as pu te dépanner, puis que le pourquoi du parce que tu es allé à l'école est mis à profit. Voilà.
Mais la réalité, c'est que c'est vrai que c'est valorisant, puis tu as un sentiment d'être comme Superman, Superwoman. Puis tu sais, moi, je fais juste de la radio, je chauffe pas de vie, je suis pas bien utile à la société. Là. Fait que je peux pas croire pour.
Pour pas ça, parce que je suis certaine que ça fait du bien à plein de gens.
Oui, mais on est dans le divertissement. Ah, ces gens-là sont sur le terrain, voient des choses épouvantables puis réussissent quand même à faire leur chemin à travers tout ça. Le rôle des gestionnaires, puis j'explique un peu ma question, peu importe le métier, que ce soit pompier, que ce soit agent carcéral, que ce soit policier, peu importe. J'ai comme le sentiment que il y a un moment où tu craques, que tu le veuilles ou non. Tu sais, j'imagine que, je sais pas, tu débarques sur une scène super banale. C'est une dame dans une RPA qui est seule, puis qui va décéder. Puis toi, ta mère est décédée seule. Ouais. Tu dois faire un lien, veux pas, émotif. Une projection qui doit être vraiment, vraiment profonde. Quand tu termines un cas comme ça qui a l'air bien banal pour la société, là, comparé à tout ce qu'ils peuvent vivre au quotidien, là, est-ce que tu as le droit... comme professionnel d'urgence, de te retirer?
Absolument. Dans les dernières années. Hein, moi, je rappelle, j'ai commencé nouveau, il y a presque 29 ans. C'était pas ça du tout. De toute façon, les gens mettaient pas le genou à terre. Tu sais, c'était des mâles alpha, puis c'était... Ben, je suis capable, j'ai choisi ce job-là. Jack Daniels était un bon thérapeute, on se rappelle. Par contre, maintenant... On le salue toujours, Jack, toujours membre de l'Ordre des travailleurs sociaux du Québec. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on forme beaucoup, puis encore la semaine passée, j'ai fait 2 formations à des gestionnaires de premier niveau. Donc, sergents, des lieutenants d'incendie, paramédics, c'est des superviseurs. Donc, on les forme à dire, on va faire un désamorçage, défusing, et on va faire verbaliser les gens, mais il faut être conscient des signes. Puis j'adore l'exemple que tu as donné, Audrey, parce que souvent, les appels impliquant des enfants, les appels, tu sais, tuerie de masse, n'importe quoi, là, de super gros, on a tendance à dire, ben oui, on va faire un désamorçage après. Quand c'est la madame en RPA, justement, ton exemple est extraordinaire, puis que, le premier constat de décès chez des paramédics qui n'ont jamais vu de cadavre de leur vie, bien, assurément qu'on le sait pas, c'est pas spectaculaire. Puis là, je mets 25 paires de guillemets si vous regardez sur Twitch. Donc, ce qu'on va faire, c'est permettre au superviseur de prendre un petit moment avec la personne pour voir comment ça va réellement. Puis t'as-tu envie de rester au travail? Puis t'es-tu apte à rester au travail?
Ouais.
Parce que ça se peut que je sois tellement chamboulée que mon appel d'après, je me rappelle plus de mon nom, j'oublie ma trousse, je laisse la cigarette dans la rue, je suis plus là partout. Fait que ça, c'est super important qu'on fasse ça maintenant. Et ça se fait. la culture tend à changer. Dieu merci, ça fait partie de ce que je constate.
Puis tu peux-tu être un bon juge envers toi-même pour dire « oui, je peux rester ou je peux pas rester? »
C'est une super bonne question. Plus on les sensibilise à leurs signes, plus on change la culture, moins les gens ont de tabous à demander de l'aide. Et okay. ça, là, c'est ce que je constate. Et moi, c'est pour ça que je suis ici ce matin, en fait, c'est enlever ces tabous-là. Il faut pas avoir peur de mettre le genou à terre. Puis souvent, on se dit « j'ai choisi cette job-là ». Oui, t'as choisi cette job-là, mais t'as pas choisi cet appel-là aujourd'hui. Fait que laisse-toi l'espace. Quand j'ai commencé à aller en caserne, moi, les paramédics, ça va faire 11 ans cette année, j'ai commencé à aller en caserne, les gens se cachaient pour venir consulter. Et là, c'est rendu super normal. Mmh. C'est la même chose dans tous les milieux.
Je trouve ça beau, là.
Ah oui, c'est beau à voir, honnêtement.
Tu sais, des fois, on en parle beaucoup de santé mentale, puis c'est bien, mais des fois, j'ai l'impression, puis c'est vraiment une perception, moi, qu'on en parle tellement qu'on la banalise à un certain point, tellement on en parle. Mais de savoir que le chemin se fait bien, on dirait que ça me rassure.
Moi, j'aurais espéré que ça soit plus ouvert que ça depuis plus longtemps.
Oh non!
Parce que ces gens-là côtoient la misère du monde, là.
Absolument.
Des choses que... Puis, tu sais, les scratchs, le nombre de scratchs entre la réalité, puis c'est... Mais la réalité, monsieur, madame, tout le monde, puis les gens qui font ces métiers d'uniforme-là que tu viens de mentionner, c'est majeur. Donc, avoir la possibilité... Puis il faudrait tellement que ça soit ouvert, démocratisé. Oui, puis, ça ne peut pas être obligatoire parce que si tu ne veux pas travailler sur toi, ça ne fonctionnera pas.
Moi, j'ai des clientèles que c'est obligatoire, honnêtement.
Mais je travaille avec des enquêteurs.
Ah oui, en agression sexuelle, je travaille avec les enquêteurs dans certains services de police. Ils ont une obligation de consulter. On avait fait, puis c'était une entente syndicale, ville et... ville, syndicat et moi. Donc, on s'entend pour dire qu'on va faire à chaque année une rencontre obligatoire avec les enquêteurs en agression sexuelle juvénile. Fait qu'ils sont surexposés à des situations évidemment extrêmement lourdes. Et au départ, on oblige une fois par année. Fait que la première fois que j'y vais, tu sais, il y a un tabou, puis c'est qui elle, puis nous comprends-tu, puis mon secret, tu sais, étanche. Bon, les questions usuelles dans le milieu. Et éventuellement, les policiers ont demandé à avoir deux fois par année parce qu'ils se rendaient compte que finalement,
ça donnait
deux heures,
main,
c'était pas long. Ouais. Puis là, ils vident leur sac. Fait que c'est beau de voir que, moi, j'appelle ça les apprivoiser. Puis je fais toujours l'analogie avec le petit prince, le renard du petit prince. Là. Ouais. Je dis pas ça dans le sens où ils sont méchants, pas du tout. Mais c'est de dire, j'arrive sur votre planète, puis je me permets de dire, ici, là, c'est l'espace pour tout garocher. Fait que c'est beau de voir que, mais il faut y aller petit à petit parce que, tu sais, j'ai beau faire des formations qu'on a pu finir à faire de la radio ce matin. Il reste encore une mentalité, tu sais, de j'ai choisi cette job-là, je dois donc tout assumer.
C'est sans rien t'enlever, Julie, mais j'imagine, en passant, on était avec Julie Nadeau qui est travailleuse sociale en milieu d'urgence, là, mais j'ai l'impression que même si tu excelles dans ton travail, peut-être, tu pourras peut-être jamais ressentir ce que c'est réellement l'accumulation de ces traumas-là clairement. Avec le temps. Les proches, j'ai l'impression que si t'es femme de policier, de pompier, de paramédic, t'es cop, là, que tu le veuilles ou pas, t'es cop, tes enfants sont cop, je veux dire, c'est... Puis c'est pas sain, à mon sens, si ce professionnel-là d'urgence se permet pas d'en parler, fait que... Ouais. Comment ça se gère, tout ça?
Bien, on essaie de leur dire qu'ils peuvent parler de comment ils se sentent, mais peut-être pas de l'aspect sensoriel. Parce que ce qui va scratcher quelqu'un d'autre, mettons, si je vous raconte un événement, puis vous voyez depuis tantôt, je fais attention, on appelle ça du traumatisme vicariant. Donc, c'est de scratcher quelqu'un d'autre en racontant trop de détails sensoriels. Mm. Fait que je peux dire, par exemple, je suis allée sur un suicide ce matin, j'ai trouvé ça extrêmement difficile, c'est venu me bouleverser, ça m'a remise en question, mais j'ai pas besoin de raconter la scène. La scène n'est pas censée me faire tant de bien, sauf si je le fais d'une manière thérapeutique. Et ça, je vous plug un petit mot américain, ça s'appelle la trauma porn. Fait que la trauma porn, c'est le fait d'aller raconter à qui mieux. Puis là, il y a plein de podcasts à la mode, et oui, je juge 3 secondes. Puis là, il y a plein de gens qui racontent full détail. Puis là, ben, les gens qui reçoivent ça, ben, ils sont scratchés. Fait que ça, c'est pas une pratique qui est utile.
Hey, et pourtant, on aime ça.
Ben oui, mais on se pète le mental en bon québécois.
C'est fou parce que on est... Puis là, que ce soit du true crime ou... ça fait partie de notre job, Kat, là, mais moi, je veux dire... Puis c'est malsain, ce que je veux dire. C'est vraiment malsain, je t'avertis, Julie. Là. Non, mais moi, j'aurais un paramédic ici, tu comprends, qui voudrait, qui serait à l'aise de me raconter les pires anecdotes qu'il a vécues dans une carrière. Je veux dire, mes oreilles sont grandes ouvertes parce que je connais pas ce milieu-là. Puis pour moi, c'est comme un film.
Ouais, lui,
tu vas me raconter une histoire.
Ouais, mais lui, il se réémerge dans son trauma. Fait qu'on scratche le paramédic. Puis toi, tu vas être scratché. Puis il y a probablement plein d'auditeurs qui vont être scratchés parce que ça va leur réveiller des fantômes. Puis c'est extrêmement malsain. Puis la semaine passée, je formais des pompiers. Puis il y a un pompier qui me dit, tu sais, Julie, plus on en parle, plus on devient désensibilisé. Non. Plus t'en parles, plus tu deviens dissocié. Ça enlève pas tes événements. Ça fait juste te couper, ça coupe ton mental puis ton affectif. Et les études sont claires là-dessus, là, c'est scientifique ce que je dis. Fait que moi, j'ai plein de clients qui me disent « Ah, je vais écouter podcast XYZ, ça va me faire du bien, je vais me normaliser. » Ils me disent pas ça de même, là, mais moi, je comprends qu'ils veulent se normaliser. Au final, ben, ils se rebrisent.
Fait que là, la distinction est vraiment claire de ce que tu viens de faire.
Alors, c'est le sensoriel. Fait que c'est là qu'il faut faire attention. Et j'écoute du true crime en passant, le cordonnier extrêmement mal chaussé ici, là. Mais quand on est dans des périodes de vulnérabilité, d'aller écouter l'autre, on pense dire « Ah oui, on connecte. » Ben non, on connecte pas. En fait, je rouvre ma boîte à trauma, vous voyez là, comme ça. Là. C'est une grosse boîte dans laquelle j'ai mis mes 600-850. Puis là, Catherine, elle me raconte son histoire. Ben là, ça va faire un lien avec une de mes bébites dans ma boîte à trauma. Puis là, je dis « Mon Dieu, mais je vais pas bien. » Puis des fois, on s'en rend pas compte. C'est très, très insidieux, ce mécanisme-là. Fait qu'on appelle ça la « trauma porn ». Et j'en parle de plus en plus dans mes formations. J'écris beaucoup là-dessus parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'ultra malsain. Pensant bien faire, hein, je donne pas l'intention. Mais malheureusement, on scratche tout le monde autour.
Mais non, mais je veux dire, on doit plaider coupable. Ça fait partie un peu de ce qu'on fait dans le métier, d'aller chercher ce genre d'informations-là, de faire vivre ce genre de trucs-là aux gens. Fait que on plaide coupable totalement, mais tu me fais réaliser qu'effectivement, que c'est peut-être pas...
On peut faire vivre l'émotion sans mettre la scène. Non?
Exactement. J'ai envie de te demander, en terminant, Julie, qu'est-ce qui manque selon toi? Tu sais, tu l'as dit, ça fait plus de 25 ans que tu fais ça, tu as vu l'évolution au niveau de cette santé mentale-là chez nos travailleurs d'urgence. Est-ce que tu as l'impression que c'est complet ce qu'on offre en ce moment, étant donné que les gens sont de plus en plus ouverts? Comment on peut peut-être améliorer ça encore dans le futur?
Mais pas du tout, mais pour moi, il faut jouer ces conditions systémiques, puis c'est pour ça que je t'avais proposé de parler des conditions de travail, puis là, je suis pas là pour faire un plaidoyer syndical ce matin, mais donner des meilleures conditions de travail, comprendre aussi que, là, on n'a pas parlé de l'horaire, là, mais jour-nuit, là, c'est switcher, en fait, qui est difficile. Oui, travailler de nuit, c'est difficile. Moi, je fais de la route tout le temps de nuit parce que j'aime ça, ils appellent de nuit. Essayer de manger à Québec de nuit à la base, honnêtement, à part de la poutine, ça va être correct. Oui, ça finit en poutine. Règle générale, c'est bien correct. Mais ça reste qu'à long terme, moi, je fais un chiffre par mois, c'est pas si pire. Ce qu'il faut voir, c'est les conditions de travail, c'est aussi la rétention du personnel, prendre soin des gens. Moi, je travaille avec les organisations qui veulent travailler à santé mentale, mais il y en a plein qui ça leur passe 32 pieds par-dessus la tête. Puis ils disent aussi à l'intervenant, tu iras chercher de l'aide. Bien, savez-vous quoi? Ils vont rarement chercher de l'aide. Puis quand ils viennent, les minuit moins une, là, ils nous appellent juste la semaine passée. Je travaille avec la Vigile là, depuis la Fondation il y a 25 ans. On reçoit un appel, puis le policier, il est sur le bord de passer à l'acte. Là. On est collé sur le passage à l'acte, là, maintenant. Là. Fait que, tu sais, il a attendu à la dernière seconde, puis la fenêtre d'opportunité pour le rappeler est toute petite. Fait que, favoriser la demande d'aide, moi, je pense
c'est
que
drôle,
c'est ce qui reste.
Tu parles des conditions de travail. Il y a Dave qui nous a envoyé un texto. Il dit « Les ressources disponibles sont un gros facteur. J'étais dans la GRC en milieu rural et nous étions seuls dans notre autopatrouille. Et des fois, mon collègue le plus proche était à 30 minutes. Le cerveau travaillait fort pour me préparer au pire scénario en se dépêchant pour arriver vite sans me mettre en situation difficile, sans avoir mon backup près de moi. »
Bien, merci, Dave, parce que si on regarde la statistique, il y a une vaste étude sur la santé mentale des intervenants d'urgence, c'est 2018, mais quand même, et la GRC, oui, sort première au niveau du post-trauma et le fait d'avoir du backup très loin, ben ça fait une grosse différence.
Ben pour ta sécurité personnelle aussi, puis ce que tu anticipes, là. Julie, c'est toujours tellement intéressant de te jaser. Évidemment qu'on va se reprendre, on va se trouver d'autres angles. Vous avez des questions? 88-971-1021 par texto. On revient dans quelques instants. Rage against the... Ah, et c'est à ça que sert le Twitch du plaisir pendant les pauses.
C'est terrible.
Ah, mon Dieu, remercie encore Julie qui est venue nous jaser. Julie Nadeau, qui est travailleuse sociale en milieu d'urgence. Vous avez des questions, des recommandations de sujets. Vous savez que le micro est toujours ouvert pour vous. C'est pas pour rien que ça s'appelle l'open mic. Kat?
Oui, Audrey?
On tire à notre fin. Peut-être vous dire rapidement que s'il y a quoi que ce soit sur les routes, vous n'hésitez pas au 88-971-1021. Il y a Jeff Fortin et Max qui sont à la rescousse dans les prochains instants pour Marceau le midi. Vous dire que présentement, ben, c'est un 14 qu'on sent à l'extérieur, alternance de soleil-nuage. Quoique c'est de plus en plus nuageux. 18 au maximum pour aujourd'hui. Demain, ce sera 17, alternance soleil-nuage également. La belle journée qu'on vise, là, c'est mercredi avec 25 degrés, ensoleillé de bord en bord. Un énorme merci d'être venu à ma rescousse ce matin, Kat, d'être venu faire l'open mic avec moi.
N'importe quand que tu as besoin, je suis là, ma belle. Ça va me faire plus que plaisir.
Ça a été du gros plaisir de te retrouver. Je pense qu'on n'avait jamais eu la chance de faire de la radio à deux comme ça.
À deux, non, effectivement.
C'est à refaire éventuellement, assurément. Hey, je vous en souhaite une belle. Nous, on se retrouve cet après-midi dans une formule tout aussi décousue avec Véronique Bergeron et Nathan Meilleur qui vient à la rescousse de ce côté-là. On se laisse sur Extérieur ce matin avec Le Complot. Bon midi, à tantôt.